tout d'abord un petit peu d'histoire, c'est-à-dire que on a eu l'idée d'un atelier philo sur l'écologie à partir, alors déjà ça fait plus d'un an et demi de ça, hein, c'est histoire de refaire un peu le film parce que c'est pas inintéressant et que depuis s'est passé beaucoup de choses. On a eu l'idée d'abord à partir de la question de l'effondrement, donc qui évidemment n'est pas une mince affaire. Alors évidemment, ça renvoie notamment à l'idée de collapsologie. Le bouquin de Pablo Servigne et de Stevens, etc. Mais plus largement aussi, bien évidemment, à des questions quand même assez lourdes, dans tous les sens du terme, qui incluent... entre autres, le dérèglement climatique, mais pas que. Donc la question de l'effondrement, on est parti d'abord de là. Et puis peu à peu, on a voulu essayer de préciser le sujet. Et on s'est dit que peut-être on pouvait envelopper cette question de façon un peu plus large et un peu plus ouverte. Et donc on en est venu à cette idée d'écologie au pluriel, en essayant de tricoter quelque chose qui... on va dire quoi, pouvait avoir un sens sur le plan d'une discussion philosophique, mais philosophique prise bien évidemment dans une question politique, mais pas que, mais aussi avec des aspects tout à fait concrets de gens qui font des choses, et notamment localement ici. Hein. Moi j'habite à Paris, donc évidemment là, c'est une toute autre réalité, mais... sur le plan concret de choses en apparence très, je dis bien en apparence très peu politique, il se passe plein de choses aussi, et notamment dans les jardins partagés, dans des terrains d'écologie populaire. Il y en a un juste à côté de chez nous, puisque nous on est vers, pas très loin du Père Lachaise et pas très loin de la Bastille, où par exemple un terrain qui était voué à la spéculation immobilière a été et toujours occupé. Donc c'est un très grand terrain, il y avait un gymnase, et où il se passe des choses comme ça. Et il y a plein d'endroits comme ça, y compris en région parisienne, où il y a des espèces de poches où on peut respirer dans tous les sens du terme, et rencontrer des gens, cultiver, voilà. Donc là, ces questions-là sont pas anodines, parce que le fait que des gens puissent s'impliquer concrètement, se rencontrer physiquement, évidemment que ça génère des choses, quoi. Donc on voulait absolument pouvoir essayer de marcher sur les deux jambes, quoi, de la question de la réflexion, mais aussi des pratiques concrètes, y compris des pratiques politiques institutionnelles et notamment municipales. Ça aussi, ça peut renvoyer à tout un aspect de la discussion. Et puis on s'est dit aussi que peut-être qu'un seul atelier, un seul rendez-vous serait peut-être pas suffisant. C'est pourquoi ceci aujourd'hui est la première partie et se poursuivra en octobre prochain. Donc là, plus peut-être du côté d'une philo entre guillemets pure et dure, on appellera ça écosmogonie, habiter la pluralité des mondes. Parce que, à travers toutes ces questions autour de l'écologie, c'est quand même un peu de ça dont il s'agit aussi. C'est-à-dire que assez rapidement, on voit bien que quand on commence à travailler la question de l'écologie, qu'elle soit politique au sens premier du terme ou au-delà, on rencontre assez vite l'écoféminisme, on rencontre assez vite l'écologie décoloniale. On rencontre bien évidemment les luttes des peuples dits autochtones ici et là contre l'extractivisme, etc. Donc, et on a toute une série de strates, je dirais, qui font que la question de l'écologie aujourd'hui n'est pas évidemment loin de là qu'un truc gentil où on va repeindre en vert l'ordre existant. Donc voilà. Ça, c'était un petit peu le point de départ. Et puis, évidemment, il s'est passé beaucoup de choses. Et notamment, c'était quand même il y a un siècle, il y a eu la pandémie. Et donc, évidemment, que ça a... Alors, d'une part, ça a fait qu'on a quand même annulé par deux fois la tenue physique de l'atelier. Et puis, évidemment, entre-temps aussi, on continue à gamberger, quoi. C'est-à-dire que moi, je ne suis plus le même qu'il y a un an et demi, hein, c'est clair. Et personne, d'ailleurs, je pense que quelque chose s'est passé, quelque chose est en train de se passer qui modifie aussi, alors on est, on, qui renvoie en plus à une espèce de temporalité compliquée à définir parce qu'on a vécu finalement un moment, alors là j'y inclus évidemment le premier confinement, ça va de soi, mais tout le reste qui vient après, dans un truc assez mélangé, assez bizarre, on est confiné, on n'est pas confiné, il y a un couvre-feu, il n'y en a pas, enfin, un peu tout et son contraire, mais où on vit un temps qui à la fois semble ralentir, voire même se figer par moments, et où en même temps les choses s'accélèrent considérablement. Hein, ça, je pense que tout le monde a pu ressentir cette chose-là, et puis ça s'est vérifié. On voit bien que sur le plan de toutes les politiques libérales que l'on subit depuis un certain nombre d'années, évidemment j'y inclus toute la séquence dite hollandaise, valsiste, de nos amis socialistes avec la loi travail, on voit bien que Macron n'a rien décéléré du tout, pour parler que du cas français, hein, ça va de soi, et au-delà. C'est-à-dire que les grands patrons de type Amazon, etc., ont complètement appuyé sur le champignon accélérateur, et que, y compris du point de vue, je dirais, des conduites de chacun, on a parfaitement intégré ce nouvel âge du capitalisme, quoi. Bon, ça, on pourra aussi en reparler, évidemment. Donc, on est quand même là dans un sur un décor de fond qui a quand même un peu toutes les allures de la dystopie, quoi, où on est plus que jamais dans la biopolitique, on est plus que jamais dans la société de contrôle. Je voyais, enfin, je veux dire, là, il y a encore quelques jours, une société, je crois que c'est Google d'ailleurs, qui est en train de mettre au point enfin, une technologie qui fait que, par exemple, donc, bientôt, vous pourrez être effectivement beaucoup mieux qu'avec Zoom, hein, c'est-à-dire vous pourrez discuter avec des lointains comme s'ils étaient vraiment là, c'est-à-dire avec toute l'illusion visuelle de la chose. Donc il est en train de se passer quelque chose, bien évidemment, et tout ça n'est pas sans lien avec la problématique écologique, c'est-à-dire que on voit bien là aussi que à la question de la crise à l'échelle planétaire du dérèglement climatique, de la sixième extinction massive, etc., le capitalisme ne reste pas inerte, bien au contraire, il se saisit en grande partie de cette question. C'est le fameux capitalisme vert, mais qui n'est pas, je dirais, qu'une enveloppe. Comme ça pour faire joli, bien évidemment, hein. C'est-à-dire que là aussi, il va y avoir, je dirais, des courses de vitesse et des vrais combats et enjeux politiques et sociaux autour de justement de l'accélération d'une technoscience toujours plus ravageuse. C'est-à-dire comment on va soigner le mal, si je veux dire, en l'aggravant finalement. Donc, et notamment qui nous oblige à nous positionner sur la question du vivant au sens large du terme, et là aussi il va falloir un petit peu creuser. Alors tout ça fait beaucoup, hein, de questions, mais je pense que c'est important de resituer évidemment dans l'actualité, hein, et non pas au sens anecdotique. Et justement, et ça c'est pas du tout une anecdote, il y a quelques jours il y a eu une manifestation fasciste à Paris, avec les syndicats Alliance, etc. Pour moi, c'est une manifestation fasciste. Hein. Je veux dire, faut pas tourner autour du pot. C'est pas juste une manifestation syndicale de policiers. Mais l'événement, c'est qu'on a une bonne partie de la classe politique qui a participé. Alors là, un petit peu dans une espèce de continuum déjà ouvert avec la manif Je suis Charlie, etc. Bon, sauf que là, ça repositionne encore les choses différemment, mais en même temps, dans le même mouvement, finalement, de ce grand unanimisme. Et puis surtout, que parmi les politiques, il y avait ce qui reste du Parti socialiste, ce qui reste du Parti communiste, et il y avait Jadot. C'est-à-dire que la question de quel type d'écologie on veut, elle se pose aussi à ce niveau-là. Indépendamment, y compris, je dirais, et bien au-delà de la question électoraliste, de l'illusion de la pêche aux voix, mais elle se pose aussi à ce niveau-là. Et je pense que c'est vraiment pas anecdotique une manifestation de ce type-là. Et que les politiques, y compris de ce qui semble, on peut encore s'appeler la gauche, si ça se mérite comme ça, s'engouffrent là-dedans. Ce n'est pas du tout anecdotique. Je pense qu'au contraire, c'est un des socles de notre époque, c'est-à-dire une époque qui fait politique à coup de systèmes policiers, y compris d'un système policier intégré par chacun, hein, parce qu'évidemment tout ça n'est jamais uniquement vertical. Et puis sur fond, en effet, d'un système toujours plus hygiénique, hygiéniste, évidemment à la hauteur de ce que ce système-là détruit par ailleurs les conditions d'habitabilité de la planète. Donc voilà, ça c'était pour brosser assez rapidement le tableau général et pour dire que cette question de l'écologie, elle n'arrive pas aujourd'hui, hein, ça fait un petit bout de temps que ça a commencé, évidemment, l'écologie politique, mais on en parle beaucoup à un moment où précisément, bien évidemment, même les climato-sceptiques, je veux dire, enfin, personne ne peut nier qu'il est en train de se passer quelque chose qui va rendre, qui va bouleverser, dans tous les sens du terme, notre façon de vivre et d'habiter la planète. La question étant, évidemment, et c'est ça toute la différence avec les climato-sceptiques, c'est que, moi je pense qu'évidemment, c'est la capitalocène et l'anthropocène, c'est-à-dire le fait que nous avons été redoutablement actifs dans la destruction des équilibres, en sachant que là aussi, hein, la nature elle-même bouge indépendamment de nous, mais nous y avons été d'une part tout à fait active au cours d'un siècle, un siècle et demi, et la chose s'est accélérée considérablement. Donc c'est sur ce fond-là que effectivement nous sommes finalement sommés de devoir faire quelque chose, faire politique, alors tant sur le plan évidemment local que sur le plan hyper général, c'est-à-dire sur le plan mondial et planétaire, parce que bien évidemment, et là c'est une autre question assez redoutable, on peut difficilement imaginer qu'on va résoudre le problème, si tant est qu'on puisse le résoudre, mais en tout cas au moins freiner la catastrophe qui est en cours, on peut difficilement imaginer qu'on va le freiner uniquement à coup d'addition d'expériences locales. Hein. Donc là, ça positionne vraiment encore le débat à un autre niveau, c'est-à-dire une très forte tension entre, je dirais, l'autonomie, hein, au sens à la fois individuel et collectif, au sens local, au sens fédératif, hein, pour prendre un terme un petit peu de type Murray Bookchin, etc., mais qui le positionne fortement en tension avec la question des institutions. C'est-à-dire que si on n'a pas des institutions, et alors là, du pur et du dur, hein, de l'État, quoi, hein, de l'État ou en tout cas des structures interétatiques qui, à un moment donné, imposent des modalités fortes pour contrer la catastrophe en cours, je vois pas trop comment on peut s'en sortir. Donc on est dans une espèce de casse-tête, quoi. Voilà. Et c'était un petit peu ça que je voulais poser aussi en termes d'ouverture, c'est cet ensemble du casse-tête, en sachant que par ailleurs, et là c'est la cerise sur le gâteau, et vous allez me dire que je suis vraiment tout à fait optimiste comme garçon, mais c'est qu'évidemment on est aussi pris dans une course très clair, vers une forme de fascisme plus ou moins ouverte ou dissimulée. Mais en tout cas, là aussi, le système s'est tellement emballé à coup de politique ultralibérale depuis 40 ans, mais où viennent là aussi s'ajouter les coups et les couches, si vous voulez, des enjeux écologiques, qu'on voit bien que ça se barre en sucette de partout, quoi. Comme disait Deleuze, le système fuit de partout. Quoi qu'on puisse penser, par exemple, des mouvements populaires ici ou là, qui sont tous très spécifiques, hein, et qu'on peut certainement pas globalement ranger sous le même drapeau, je veux dire, entre Hong Kong, le Chiapas, le Rojava et j'en passe et les meilleurs, il y a évidemment des spécificités absolues. Mais n'empêche que voilà, ça ne va plus, quoi. La fable libérale, et notamment celle qui a été le grand récit du libéralisme après l'écroulement du mur de Berlin, ne tient plus. Plus personne ne peut y croire, et de toute façon, il suffit de regarder comment ça se passe pour que même les couches et les classes qui pouvaient supporter, dans tous les sens du terme, ce cours néolibéral, ça ne marche plus. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que les classes moyennes ne se jettent pas, et les petits patrons et tout ce qu'on veut, ne se jettent pas dans les bras du socialisme ou de ce qui pourrait en rester ou de ce qui pourrait en renaître. Ils se jettent dans les bras du fascisme, bien évidemment. Donc on est vraiment dans... Et le système va avoir besoin de plus en plus, de toute façon, de mettre en place des modèles autoritaires, opératoires, et notamment quand la catastrophe écologique va obliger des millions, voire des milliards de personnes à se déplacer parce que les eaux vont monter, parce que ceci, parce que cela, ben, il faudra bien élever encore plus de forteresses et encore plus de drones et encore plus de robots tueurs et ainsi de suite. Voilà, c'était juste pour vous dire bonne année, bonnes années. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça le tableau. Alors évidemment... tout ça nous renvoie quand même, c'est quand même assez effrayant, et ça renvoie réellement aussi à un vrai sentiment d'impuissance, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu trop pour un seul homme ou une seule nana, c'est-à-dire qu'on se retrouve justement à la fois devant le tsunami qui vient, qu'on voit venir de loin, tel ce RAN, on le voit venir, et on est un peu sidéré, on est même beaucoup sidéré. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire, quoi. Donc c'est une vraie question. Évidemment, je n'ai aucune réponse là-dessus, à part le fait d'expérimenter et de tâtonner et qu'on se démerde. Je ne vois pas trop, effectivement, quel autre type de réponse aujourd'hui on peut formuler. Parce que, évidemment, que la question de l'écologie politique, prise dans son sens d'ensemble, je dirais, elle ne vient pas... Pas à n'importe quel moment de l'histoire, elle vient à un moment où, bien évidemment, les modèles issus du mouvement ouvrier et du socialisme ont tous échoué, absolument tous, hein, quel qu'il soit. C'est-à-dire, que ce soit le modèle réformiste, je ne parle même pas de la séquence à la Hollande, je parle du modèle social-démocrate historique réformiste, c'est-à-dire quand les sociaux-démocrates voulaient encore un tant soit peu changer la société. Ce modèle-là s'est écroulé, il a même été jusqu'à dérouler le tapis, comme on le sait, au libéralisme de façon très active, donc ça n'a pas marché. Le modèle lénino-stalinien, pas besoin de vous faire un dessin, même si aujourd'hui, de façon un petit peu comme ça, dérivée, on a des gens tout à fait intéressants par ailleurs, hein, comme Lordon, qui peuvent réactiver une forme de léninisme de l'époque. Mais enfin, on voit bien que là aussi, on arrive assez vite à buter sur la problématique du pouvoir et de sa dégénérescence, en tout cas en termes révolutionnaires. Et puis le modèle anarchiste n'a pas été pour autant... il y a eu de très belles expériences, comme chacun le sait, en Catalogne, en Ukraine, et puis de façon plus indirecte, y compris au Portugal pendant la révolution des œillets. Aujourd'hui, on peut dire que le Rojava ou le Chiapas sont peu ou prou des dérivés de ce type de propositions. Mais on voit bien aussi à quel point ces expériences-là sont extrêmement fragiles. Elles seront peut-être écrasées du jour au lendemain par des considérations géopolitiques. Et puis, elles sont surtout très hautement très spécifiques. C'est-à-dire que ce ne sont évidemment pas des modèles qu'on peut exporter. Et tout ça nous ramène à quand même la question de, ici et maintenant, dans nos sociétés occidentales capitalistes, c'est-à-dire au cœur de la bête quand même, parce que nous, on est vraiment dans... avec les États-Unis, bien sûr, mais on est vraiment au cœur de cette gigantesque métropole capitaliste. Qu'est-ce qui peut faire du collectif, quoi? Comment faire du collectif et encore plus à un niveau macro? Parce que on peut considérer qu'à des échelons locaux, c'est tout à fait possible, mais dès qu'on essaie de changer l'échelle, de penser l'échelle, là, on bute tout de suite sur un énorme problème, quoi. Et cette question de l'échelle, elle est évidemment... Là aussi, elle n'est pas neutre, tout comme ne sont pas neutres les technologies. Hein. Ça, Gorce en a très bien parlé, Castoriadis aussi. Dire que les technologies sont totalement habitées et habitent elles-mêmes le système. C'est-à-dire qu'on ne peut pas défaire les technologies qu'on utilise de leur endroit, si je puis dire, historique et de leur sens historique, de ce qu'elles recèlent en elles-mêmes, quoi. Alors évidemment, on peut les détourner, bien sûr, mais bon, cela aussi, je pense qu'on pourra avoir une discussion. Et notamment le film qu'on va passer cet après-midi sur Gorce, qui dure 1h10, est assez bien fichu pour ça, parce qu'il balaye assez bien la pensée de Gorce et les différents enjeux, évidemment, qui s'y rattachent. Donc, ça vient évidemment sur tout ce lourd problème de les socialismes ont échoué, soit atrocement, soit au moins partiellement, etc. Même s'il y a eu là aussi de très belles expériences, il n'y a pas eu que de la catastrophe, mais il y a quand même un problème, et c'est ça qui explique aussi que les années 70 émergent peu à peu ce qu'on peut aujourd'hui considérer comme étant vraiment l'écologie politique, et qui ne se rattache pas forcément et obligatoirement et uniquement à l'émergence d'un parti politique. Il y a d'abord eu le mouvement d'écologie politique, il y a eu ensuite, bien évidemment, vous le savez, les Verts, puis Europe Écologie Les Verts. Mais ça, c'est, je dirais, d'un certain point de vue, la partie certainement la moins intéressante. Moi, je me souviens que dans les années 70, j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie à la fois par le biais de ma filiation ou formation anarchiste, parce que c'est vrai que les anars ont été sans doute dans le mouvement ouvrier révolutionnaire historique, certainement le seul courant où les questions du dedans-dehors se sont posées les plus précocement. Hein. Donc le végétalisme, le végétarisme, le féminisme, l'écologie. Ça a vraiment traversé le mouvement anar très tôt. Et souvent, et ça c'est intéressant aussi à souligner, plutôt du côté des individualistes que du côté des communistes libertaires. C'est-à-dire que ceux qui étaient très, très engagés dans le mouvement ouvrier parmi les anars, ce qu'on appelle les anarchistes sociaux, c'est-à-dire les anarcho-syndicalistes, syndicalistes révolutionnaires, etc., étaient sans doute moins susceptibles, même si c'était, il n'y avait pas une étanchéité comme ça, mais on remarque quand même, plus on est dans la question des rapports de production, et plus finalement on accompagne le capitalisme et moins on desserre les taux. Par contre, les anars individualistes, qui étaient, alors là, il y a la fameuse revue L'En Dehors, etc., ils étaient justement sur une espèce de position marginale assumée, et ça leur permet de penser aussi justement des pas de côté, comme on a dit plus tard, et notamment le rapport à l'animal, le rapport à la nature, et ainsi de suite. Évidemment, Élisée Reclus, qui est géographe, qui a écrit des choses absolument merveilleuses, mais il est géographe, là aussi, il y a vraiment des questions de point de vue qui sont intéressantes à souligner. Et c'est ce qui explique aussi que un mec comme Gorce, quand il écrit au début des années 80 « Adieu au prolétariat », moi je me souviens, j'ai lu la première fois que j'ai lu ce bouquin, moi j'étais totalement ouvriériste. Hein. Donc je peux vous dire, franchement, pour moi c'était le comble du petit bourgeois qui virait sa cutie et qui disait adieu au prolétariat au sens le plus, droitier du terme. Et puis évidemment, c'est pas ça du tout, quoi. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus subtil. Gorce rompt avec le marxisme, mais pas avec Marx. Mais ils rompent surtout avec, effectivement, une certaine idée, un certain récit qui place au centre le prolétariat, un certain prolétariat d'ailleurs largement mythifié plutôt par les épigones de Marx, par Marx lui-même, mais enfin Marx se leurrait aussi beaucoup. Et donc il y a un déplacement, c'est très clair qu'il y a une rupture. Ceux qui fondent l'écologie politique, d'une part, soit viennent du marxisme et rompent avec le marxisme, soit viennent pas du tout du mouvement révolutionnaire, ils viennent pour certains de filiation chrétienne, etc. Donc on a véritablement une recomposition de fond qui se fait sur le plan politique et philosophique. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant parce que, il y a beaucoup de débats en ce moment sur est-ce que Marx était écologiste, etc. Bon, on peut toujours trouver tel ou tel passage qui va nous dire oh, « bah ouais, finalement, Marx était vachement écologiste ». Moi, je dis non, Marx n'était pas du tout écologiste, c'était pas son objet. Marx avait beaucoup de qualités, il avait aussi beaucoup de défauts, bien évidemment, et puis il avait surtout beaucoup de points aveugles, totalement aveugles, comme n'importe qui pour en avoir, y compris parmi les plus grands théoriciens. Mais vouloir absolument faire du Marx, de l'héritage marxien, on va dire, une forme d'écologie avant la lettre, me semble vraiment là une illusion absolue et une erreur, parce que c'est comme si finalement on pouvait rabattre l'écologie dans un grand sac pour sauver encore une fois le marxisme, si on peut encore le sauver, quoi. Je ne pense pas qu'il faille sauver le marxisme, je ne pense pas qu'on puisse penser politiquement sans Marx, mais par contre, je pense qu'il faut vraiment changer de paradigme. Et justement, je crois vraiment que l'écologie peut être réellement un paradigme intéressant parce que, d'un certain point de vue, il nous oblige à poser sur la table, hein, comme si on avait un plan d'immanence. Là, on va poser des choses tout à fait hétéroclites et on va essayer de voir comment ça peut tenir ensemble. Ça peut tenir ensemble, mais y compris de façon difficile, conflictuelle. C'est ce que Deleuze appelle la synthèse disjonctive, c'est-à-dire que ça ne va pas de soi de faire tenir ensemble, par exemple, la défense des salariés, donc de leur travail, avec l'écologie. Évidemment que ça ne va pas du tout de soi. Si on produit à l'infini des bagnoles et qu'un jour la boîte ferme, bah évidemment, on est vraiment dans la merde. On est dans la merde du point de vue des travailleurs qui vont rester sur le carreau, et puis on est dans la merde du point de vue du modèle de société. C'est-à-dire qu'on va continuer à produire des bagnoles, on va continuer à consommer n'importe quoi. Donc, mais là, ça devient vraiment intéressant. Donc du coup, on a depuis quelque temps, un vocable aussi qui évolue, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure d'éco-féminisme, d'éco-décolonial et ainsi de suite, mais ce n'est pas juste une petite étiquette qu'on vient ajouter, c'est aussi comment justement cet appareillage, on va dire, ou plutôt cette démarche écologiste peut imprégner et traverser, y compris le syndicalisme, puisque maintenant, des copains essaient de fédérer de façon transversale, y compris donc, des gens qui sont soit à la CGT, soit à Sud, Solidaire, ou tout ce que vous voulez, ou à la Conf Paysanne, bien évidemment, mais l'éco-syndicalisme, quoi. C'est-à-dire d'essayer de repenser, y compris en termes de défense des travailleurs, d'auto-organisation des travailleurs, mais sur un plan, effectivement, qui puisse conjuguer ces questions avec l'écologie, une écologie concrète, quoi. Donc tout ça est assez passionnant quand même, c'est-à-dire que malgré le tableau absolument atroce et dystopique que je vous brossais tout à l'heure, il se passe pas rien du tout, au contraire, il se passe beaucoup de choses. Je pense qu'on était bien plus pauvres à la fois en termes de pensée, mais aussi d'expérience pratique. Il y a une trentaine d'années, enfin, pour moi, le pire, c'est quand même le désastre des années 80, où vraiment le ralliement de la gauche, enfin bon, c'est même pas la gauche caviar. Enfin, il y a un moment donné, ça devient vraiment juste atroce, quoi. Bon, on va pas s'étendre là-dessus. Mais aujourd'hui, je pense qu'au contraire, il y a vraiment, y compris parce qu'il y a aussi de nouvelles, au pluriel, générations. Hein. Alors, je vais pas vous refaire le coup de Greta Thunberg, mais enfin, quand même, je veux dire que tous ces jeunes gens parfois très très jeunes, hein, des collégiens donc, qui se mettent à manifester, à faire la grève. Enfin, bon, on est encore loin du compte, hein, bien évidemment, compte tenu de ce qu'il faudrait mettre en marche pour s'opposer à tout ça. Mais il se passe des choses et on le voit bien d'ailleurs à la façon de réagir des pouvoirs en place. C'est-à-dire que là, ça commence à saigner. Hein. Quand je dis ça commence à saigner... Dans certains pays, ça fait longtemps que ça saigne, hein, je veux dire, où les paysans qui s'opposent aux multinationales se font assassiner, les journalistes, et ainsi de suite. Mais je veux dire que, toute proportion gardée, on voit bien que les écolos n'apparaissent plus du tout comme les petits gentils. On les flingue littéralement médiatiquement aujourd'hui, y compris les plus droitiers d'entre eux ont droit tout de suite à une avalanche d'insultes. Et on voit bien que là, ce qui se dessine à travers ça, de toute façon, c'est évidemment en effet un clash géant en termes de politique de civilisation. Parce que le problème qui nous est posé, c'est... effectivement la question de la sortie du capitalisme, mais la sortie du capitalisme en tant que modèle de société, mode de production bien évidemment, mais aussi en tant que société du tout industriel. C'est-à-dire que on n'est plus, alors là pour le coup, plus du tout sur le modèle léniniste, et encore moins stalinien, hein, le soviet... Le socialisme, c'est les soviets plus l'électricité. On n'est plus du tout dans cette fascination du productivisme. En même temps, la question scientiste, techno-scientiste, elle est plus que jamais posée aussi en contre. C'est-à-dire que, quand je parlais de course de vitesse tout à l'heure, il y a aussi en fond de tout ça le transhumanisme, il y a aussi en fond de tout ça tout ce nouvel imaginaire cosmo-néocolonial, c'est-à-dire que puisque la planète Terre est devenue inhabitable ou va le devenir très rapidement, ceux qui pourront vont aller sur Mars. Alors évidemment, il y a une part totalement fantasmatique, imaginaire. C'est un business aussi, hein, bien évidemment. Mais ce que ça vend en termes idéologiques est tout à fait intéressant à voir. Et ce que vendent les transhumanistes, qui est ni plus ni moins que la liquidation... qui s'inscrit parfaitement hein, dans la suite du néo-management. Je renvoie là au travail de Johan Chapoutot, qui met très très bien en relief la politique nazie et le néo-management, et comment l'un a de toute évidence imprégné un modèle de domination par le travail, quoi. Donc... On est vraiment dans un clash civilisationnel géant qui vient et sur lequel la seule force que nous, plébéiens, classe populaire, etc., pouvons avoir, c'est bien évidemment la question du nombre. Hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, c'est que c'est... ça ne peut pas passer autrement. C'est-à-dire que sur un plan d'affrontement, sur un strict plan militaire, évidemment que nous n'avons pas le rapport de force. Donc la question du nombre va être, à un moment donné, déterminante. Et c'est ce qu'ont très bien compris les pouvoirs en place. Hein, quand on voit maintenant quels sont les dispositifs mis en place pour n'importe quel type de manifestation, qui sont de plus en plus, sauf la manif des flics, quasiment interdites, on voit bien à quel point l'ordre établi, hein, de façon comme ça assez générale, se prépare depuis plusieurs années, finalement, à la mise en place d'une police de guerre civile, et ainsi de suite. Donc, je vois que le temps a déjà beaucoup passé. et que j'ai pas traité de tout, mais je vais essayer de me recentrer un petit peu. Il y a vraiment une espèce de choses assez vertigineuses qui nous est imposée par tout ce tableau d'ensemble. Et sur lesquels il dit, enfin, la question, je parlais tout à l'heure de la question de l'échelle. On est pris en permanence dans ces tenailles-là. Hein. C'est-à-dire que l'addition des expériences locales, pour aussi indispensable et nécessaire qu'elles soient, ne suffit pas, ne peut pas à elle seule suffire. S'il n'y a pas quelque chose, c'est l'éternelle question du tout et de la partie, quoi. Hein. Le tout n'est pas que l'addition des parties. Et voilà. Donc, ce qui nous fait défaut aujourd'hui, c'est de pouvoir, un tant soit peu, répondre de façon un peu fine à ces questions-là. Donc il y a des tentatives, bien sûr, mais on est un peu soit dans le micro du local, soit dans des tentatives tout à fait éphémères et la plupart du temps tout à fait vouées à l'échec de on va lancer un appel pour fédérer, pour ceci, pour cela. Moi, je suis signataire de 40 000 trucs, mais je vois bien à quel point tout ça ne sert à rien, quoi. C'est un peu la question voilà, une des questions en tout cas sur lesquelles je voudrais qu'on discute aussi. Et pour terminer, sur le fait que l'écologie, vraiment radicalement, je crois, et là c'est vraiment, parce qu'évidemment, quand Gorz dit leur écologie est la nôtre, alors évidemment ça peut faire référence aussi plus lointainement au fameux livre de Trotsky, Leur morale est la nôtre, mais bien évidemment que nous ne défendons pas la même écologie que les tenants du capitalisme vert, ça va de soi. Mais en tout cas, cette écologie-là, elle est extrêmement radicale parce que elle nous oblige vraiment à nous décentrer totalement. Et la question philosophique, là, pour le coup, rattrape la politique. Et s'il peut y avoir, alors là, pour le coup, quelque chose de nouveau qui pourrait émerger de ça, c'est précisément une forme du politique qui ne soit pas dans cet éternel clivage où on est dans un supplément d'âme, hein, on laisse ça aux artistes, le sensible, etc. Mais où, au contraire, un petit peu à la manière dont le font les fameux peuples autochtones, on essaye de retisser quelque chose qui nous manque réellement. Je parlais tout à l'heure du fait que chez un certain nombre de gens qui ont contribué à l'émergence de l'écologie politique, certains viennent du christianisme. Je pense que la question spirituelle, cosmogonique, etc., a tellement été évacuée de notre horizon politique, à la fois par le capitalisme, mais aussi par le socialisme du matérialisme historique, que c'est peut-être là aussi une des clés. Hein. C'est-à-dire que quand certains politiques de gauche disent « Ah, mon Dieu, la gauche n'arrive pas à proposer un imaginaire », quand Lordon dit « Il faudrait rendre le communisme désirable », je pense qu'il pointe quelque chose qui est tout à fait vrai. Oui, effectivement, il nous manque vraiment de l'imaginaire, il nous manque vraiment quelque chose qui puisse ouais, être de l'ordre du désir, de la passion. Alors peut-être que d'un certain point de vue, au moins partiellement, les Gilets jaunes ont pu exprimer ça à un moment donné. Mais en tout cas, on ne fait pas de politique vivante, vive, uniquement à coup de rationalisme. On voit bien que ça ne tient pas. Et je pense que l'écologie a vraiment un intérêt. C'est pour ça qu'on fera aussi ce deuxième atelier en octobre, où on passera un film qui s'appelle Phase 4, que Joachim Dupuy nous présentera, parce que ça renvoie vraiment à des questions tout à fait cosmiques, dans tous les sens du terme, hein, à la fois dans sa poésie, dans son côté science dure aussi, mais aussi, effectivement, où le rôle et la place des êtres humains est finalement tout à fait relativisé. Ça ne veut pas dire amoindri, hein, mais ça veut dire mis dans une place où l'univers n'a pas de centre. L'univers n'ayant pas de centre, à la fois sur là aussi un plan tout à fait objectif scientifique, où est le centre de notre cosmogonie et comment apprendre à vivre, à cohabiter avec ce qu'on appelle la nature. Un petit mot pour finir sur cette question de la nature. Là aussi, hein, bien évidemment, c'est pas une nature enjolivée. Non, la nature, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Mais aujourd'hui, on est amené là aussi, par le biais de l'écologie, à remettre vraiment en cause, on va dire quoi, la distinction nature-culture, hein, puisqu'on voit bien que, y compris dans un certain nombre d'espèces animales, de toute évidence, il y a des formes de culture que ça cause, que ça transmet. Donc, on est dans... Là aussi, de façon extrêmement positive, on est dans des temps de grands bouleversements dans notre propre représentation du monde. Et donc, y compris avec, vous savez, c'est toujours celui qui vient, c'est comme dans le théâtre No. Le théâtre No, c'est quelqu'un qui arrive et le simple fait qu'il rentre dans la pièce ou qu'il arrive sur la scène vient bouleverser ce qui s'y passe, comme lui, là, en ce moment. Le fait que les espèces non humaines, aujourd'hui, finalement, nous apparaissent sous des jours et des angles radicalement nouveaux, eh bien, peut-être que ça pourrait nous inciter, au sein de notre communauté humaine qui reste à construire, justement, à être un peu plus humains et à la fois aussi un peu plus animaux. Voilà. Je vous remercie. Attendez, je voudrais juste... j'avais prévu... C'est pas long du tout, hein. Je vais vous lire un extrait quand même de. Donc ça, c'est un recueil, hein, de textes qui a été sorti il n'y a pas très très longtemps et qui est... c'est vraiment intéressant parce qu'on voit bien la pensée de Gorce. L'écologie, c'est comme le suffrage universel et le repos du dimanche. Dans un premier temps, tous les bourgeois et tous les partisans de l'ordre vous disent que vous voulez leur ruine, le triomphe de l'anarchie et de l'obscurantisme. Puis dans un deuxième temps, quand la force des choses et la pression populaire deviennent irrésistibles, on vous accorde ce qu'on vous refusait hier et fondamentalement, rien ne change. La prise en compte des exigences écologiques conserve beaucoup d'adversaires dans le patronat, mais elle a déjà assez de partisans patronaux et capitalistes pour que son acceptation par les puissances d'argent devienne une probabilité sérieuse. Alors mieux vaut dès à présent ne pas jouer à cache-cache. La lutte écologique n'est pas une fin en soi, c'est une étape. Elle peut créer des difficultés au capitalisme et l'obliger à changer. Mais quand, après avoir longtemps résisté par la force et la ruse, il cédera finalement parce que l'impasse écologique sera devenue inéluctable, il intégrera cette contrainte comme il a intégré toutes les autres. C'est pourquoi il faut d'emblée poser la question franchement. Que voulons-nous ? Un capitalisme qui s'accommode des contraintes écologiques ou une révolution économique, sociale et culturelle qui abolit les contraintes du capitalisme et par là même instaure un nouveau rapport des hommes à la collectivité, à leur environnement et à la nature. Réforme ou révolution ? Ne répondez surtout pas que cette question est secondaire et que l'important c'est de ne pas saloper la planète au point qu'elle devienne inhabitable. Car la survie non plus n'est pas une fin en soi. Vaut-il la peine de survivre dans un monde transformé en hôpital planétaire, en école planétaire, en prison planétaire, où à la tâche principale des ingénieurs de l'âme sera de fabriquer des hommes adaptés à cette condition ? Si vous doutez encore que c'est bien ce monde que les technocrates de l'ordre établi nous préparent, lisez le dossier sur les nouvelles technologies de lavage de cerveau en Allemagne et aux États-Unis.